Bonjour, amis auditeurs de Radio Galère. On est heureux de vous rencontrer pour cette nouvelle édition des carnets hebdomadaires de Comaguerre. Et on accueille avec plaisir une bénévole que je salue, qui vient écouter, voir ce qu'on dit, ce qu'on fait, comment on le fait. Bienvenue.
Elle merci. Est là.
Voilà. Je suis avec Habib et aujourd'hui c'est Sidi qui assure la technique que je
Bonjour.
Remercie en l'absence de Roselyne prise par d'autres activités.
Bonjour Sidi.
Voilà.
Bonjour.
On va commencer, je vais commencer par faire un petit tour à nouveau du côté de La Haye où siège, vous le savez désormais, la Cour internationale de justice qui se met à avoir du lustre. On parlait très très peu de la Cour internationale de justice. Elle existe pourtant depuis 1945 et elle a succédé à son petit frère, ou plutôt son papa, qui était la même cour qui fonctionnait à peu près avec le même statut au temps de la Société des Nations. Donc c'est en fait une vieille création de 1922, reproduite quasiment à l'identique en 1945 et qui fonctionne toujours.
Voilà.
Mais qui fonctionnait dans une espèce d'indifférence générale puisqu'on n'en parlait pas beaucoup dans la presse, il n'y avait pas de conflit particulier qui l'amenait à intervenir à chaud sur des dossiers. Et elle avait ce grave défaut qu'elle a toujours, c'est-à-dire que quand elle donne des ordonnances, ça s'appelle comme ça, un arrêt de la Cour internationale de justice, ça s'appelle une ordonnance, en fait, elle n'a pas les moyens de les faire respecter. C'est-à-dire, c'est... Alors si vous connaissez l'emblème du droit et de la justice, Thémis, qu'on voit sûrement très souvent sur les façades des tribunaux français, vous avez une dame qui a la balance de la justice avec les deux plateaux qu'on doit équilibrer, mais de l'autre main, elle a un glaive. Ça veut dire, je dis la justice et après, je la fais appliquer. Bon, la Cour internationale de justice, elle a perdu le glaive en route.
Ouais.
Bon, donc,
c'est ça.
Donc, voilà. Alors, elle fait des choses très, très intéressantes. Il arrive que des États qui se sont adressés à elle pour qu'elle tranche un différend entre des États l'appliquent. Il y a eu des cas qui sont assez peu nombreux, mais qui sont clairs, où il y a eu des conflits frontaliers, c'est-à-dire à la suite de décolonisation. Deux pays disaient « moi je considère que la frontière elle passe ici, toi tu considères qu'elle passe là ». Bon, on va donner le dossier à la Cour internationale de justice, et dans sa grande sagesse, elle va dire, en fonction des précédents, des traités, etc., où passe la frontière, et on ne va pas se faire la guerre pour ça. Ça existait, ça c'était bien.
Et elle est financée par...
Alors, elle est financée...
C'est ça le problème.
Alors ça, c'est l'UNRWA dont tu parles. Ouais. La Cour internationale de justice, elle est sur le budget de l'ONU, il n'y a pas de souci. Ne pas la confondre avec la Cour pénale internationale, qui n'est pas une juridiction de l'ONU, qui a été créée beaucoup plus tard, donc à la fin des années 90, à la demande de Bill Clinton, de telle façon que les États-Unis, qui ne sont pas soumis à la Cour pénale internationale, puissent envoyer d'autres y siéger et y être condamnés à l'évidence. Bon. Donc je parle maintenant que de la Cour internationale de justice, parce que j'attendais avec impatience ce jour ou la veille, parce que normalement, le 26 janvier... Vous le savez, la Cour internationale de justice a rendu une ordonnance donc historique dans le cas de génocide commis par Israël en Palestine. Alors elle l'a fait avec toute une série d'attendus, et c'était très solide, c'est-à-dire elle ne disait pas « il y a génocide », mais elle faisait la liste de tous les critères qui existent dans la Convention internationale sur le génocide, qui peuvent dire « oh, là on est effectivement dans le cas de génocide, quand on affame une population », enfin il y a toute une série de raisons, et là elle avait simplement fait la liste en disant « tous les critères sont remplis ». Et elle avait, j'allais dire, dans son immense mansuétude, dit à Israël, qui était donc condamné de fait à changer de posture, on vous donne un mois pour rectifier le tir, en gros. C'est-à-dire, faites un peu, améliorer un peu les choses, parce que là, vous êtes carrément sur la voie du génocide, vous êtes en train de le commettre, on vous le dit, vous y êtes, et si vous n'avez pas changé vos pratiques dans le mois écoulé, donc ça a commencé le 26 janvier, dans un mois, je serai obligé de tirer les conclusions de votre changement de pratique ou de votre non-changement de pratique. Bon, on le sait, je ne vais pas rentrer dans les détails, que la pratique n'a pas changé. Simplement, le mois est écoulé, et j'attendais hier avec impatience le 26, puisque ça faisait un mois, et il se trouve que la Cour internationale de justice était un petit peu embouteillée, c'est-à-dire elle avait un autre gros dossier qu'elle était en train de finir, et je pense qu'elle aura peut-être 48 heures de retard dans son statut, dans son jugement, dans son ordonnance sur le non-respect par Israël de la poursuite du génocide. On verra dans la semaine qui
vient. À Gaza.
Voilà, à Gaza principalement. On verra la semaine prochaine, je pense qu'ils auront réussi à donner un point de vue. Et j'en viens au motif de leur retard. Le retard, c'est qu'ils étaient en train d'achever des audiences dans un cas... Alors, c'est dans un autre cas, c'est-à-dire la Cour internationale de justice peut prendre des ordonnances, c'est-à-dire émettre un jugement, qui est la loi, même s'il n'y a pas le glaive, hein, et elle peut aussi émettre des avis, c'est souvent l'Assemblée générale de l'ONU qui dit, là, il y a un problème, un conflit entre deux États, etc. Quel avis vous avez? Et donc, elle dit, voilà, moi, ce que je pense, qui a raison, qui a tort. Après, c'est à l'ONU d'en faire ce qu'il décide d'en faire. Quelquefois, il n'en fait rien. Quelquefois, il pourrait en faire quelque chose. Bon. Et là, la Cour internationale de justice avait été sollicitée pour donner un avis sur la colonisation de la Palestine par l'État d'Israël. Alors, c'était très intéressant. C'est parfaitement à l'ordre du jour. Et en fait, elle a passé un certain nombre de jours depuis la semaine dernière à auditionner, et ça c'est une première aussi dans son histoire, elle a auditionné 50 témoignages d'États qui sont venus expliquer pourquoi eux considéraient qu'effectivement il y avait une colonisation qui se faisait en Palestine de la part d'Israël. Et ça c'est aussi une première, ça n'avait jamais pris tant d'ampleur, vous imaginez, 50 délégations d'États qui arrivent. Alors ce n'est pas des gens qui viennent crier « mort aux sionistes », hein, c'est des gens qui viennent avec des dossiers, des faits, des documents, des photos, etc., qui disent, voilà, moi je considère que là, il y a eu colonisation, ceci est un acte de colonisation. Bon. Et donc ça, ça a eu lieu, et ça s'est achevé hier, et c'est ce qui explique, je pense, que la CIJ soit un petit peu en retard sur l'autre dossier, parce qu'elle est allée au bout de ce travail, qui est unique en son genre. Jamais elle avait passé tant de soins à émettre un avis circonstancié avec tant d'États qui sont venus expliquer pourquoi ils considéraient, eux, qu'il y avait effectivement colonisation. Et la colonisation est un crime, c'est-à-dire que tout ce qui se passe sur le terrain du colonisé est imputable au colonisateur. C'est un rapport qui est, du point de vue du droit, parfaitement clair. Alors on sait d'autant plus que dans le cas israélien, ça s'applique, puisqu'il n'y a pas besoin d'être anti-israélien, ce qui est pas bon problème. On parle toujours des colonies, des colons. Et vous avez vu peut-être à la télévision ici et là, effectivement, des photos des nouvelles colonies. C'est-à-dire que sans interruption depuis maintenant 70 ans, Israël prend des terres aux Palestiniens, et ça s'est accentué ces dernières années. Et vous avez sans doute vu des photos de villages neufs perchés sur des collines qui sont sur le territoire de la Palestine.
Donc, c'est-à-dire en 1948, il y a eu le partage par les Nations Unies de la Palestine.
Et de l'État d'Israël.
Et voilà. Ouais. Alors, il y a l'État d'Israël et la Cisjordanie et Gaza.
Et Gaza.
Voilà. Et là, actuellement, les colons ont occupé la Cisjordanie qui appartenait aux Palestiniens. Ils l'ont occupé pratiquement à 80%.
Oui, ah oui, oui, il y a des villages partout qui sont des villages. Et d'ailleurs, je dis, même Israël, on les appelle des colons. Ils n'ont même pas honte de l'appellation.
Ouais, mais je veux dire, bon, la partie vraiment qui
tout
appartenait.
À fait, tout à fait. Donc là, donc, il n'y a pas de résultat de sous toutes ces audiences donc, qui ont eu lieu jusqu'à hier. Mais il y aura certainement un résultat qui ne fait guère de doute. C'est-à-dire qu'il y aura effectivement reconnaissance du crime de colonisation. Alors, on en sera toujours rendu au même point du peu de l'exécution de la décision. Il n'y aura pas d'exécution. Il y aura un avis qui s'ajoutera au dossier d'Israël à la face du monde. Disons, on dira, ben oui, Israël a colonisé et il a été condamné pour ça par la Cour internationale de justice. Ça fera ou ça ne fera pas d'effet.
Après, il faut voir.
Alors après, qu'est-ce qui se passe? On revient sur cette Cour internationale de justice. Qu'est-ce qui se passe une fois qu'elle prend une ordonnance? C'est-à-dire elle décide de quelque chose. Et ce qu'elle pourra décider dans les jours qui viennent, je pense, c'est de dire effectivement, on a mis en garde Israël. On lui a dit « Attention, vous êtes en train, vous êtes sur le chemin d'orchestrer un génocide ». Il n'a pas entendu, il n'a pas du tout changé. Et donc effectivement, on dit, et ils pourront dire, je pense la semaine prochaine ou dans les jours, Israël a commis un génocide caractérisé dans un texte. Ce n'est pas un mot jeté en l'air. Il y a un texte qui a été voté, qui a été signé en 1948, et que très curieusement, et c'est là qu'il y a l'ironie de l'histoire, Israël qui ne signe en général jamais rien. Je sais pas si vous savez. Israël a tendance à ne pas signer les traités internationaux, à ne pas s'engager à quoi que ce soit. Et là, il se trouve que, comme cette convention sur le génocide a été créée et adoptée par l'ONU en 1948, que l'État d'Israël venait d'être créé et que la majorité des Israéliens, au moins tous ceux qui venaient d'Europe, savaient très bien ce que c'était que le crime de génocide puisqu'ils y avaient échappé par miracle et que leurs parents ou leurs grands-parents y étaient morts. Donc ils ont signé. Et en fait, c'est un des rares traités internationaux qu'Israël a signé. Depuis, il n'a pratiquement presque rien signé. Mais là, il se trouvait être victime d'un texte qu'il avait signé dans d'autres circonstances historiques. Enfin, il n'est pas encore victime, mais il se trouvait devoir se soumettre à un texte...
De toute façon, moi, je ne sais pas s'il est d'accord, Bernard, c'est que Israël n'a pas de frontières. Pour eux, pour les Israéliens...
Dans leur idéologie.
Oui, voilà. Dans leur idéologie, ça part du Nil jusqu'à l'Euphrate. Enfin, si vous connaissez la géographie. Voilà. Et jusqu'à présent, ils ne reconnaissent pas la frontière. Pour eux, c'est pas...
Non, c'est pour ça, on dit, bon, on va au Liban, on est comme chez nous. Ouais, on va bombarder en Syrie, on est chez
Syrie,
nous.
Voilà,
on va,
voilà. Ou en Irak.
Oui,
ou...
au choix. Ouais. Voilà. On est dans ce contexte. Donc, voilà le commentaire sur cet avis que va formuler la CIJ au sujet de la colonisation, mais qui, je pense, fait gardons l'ombre d'un doute, la colonisation sera confirmée. C'est très bien parce que c'est très bien politiquement. Ça n'a pas d'effet juridique, il n'y aura pas de sanctions juridiques, mais politiquement, vis-à-vis même de l'opinion publique internationale, c'est confirmé qu'effectivement cet État viole les lois sur la colonisation qui sont acceptées par ailleurs par la totalité des États du monde. Même s'il y en a qui gardent des colonies comme la République française, je le dis au passage, parce qu'il ne faut jamais l'oublier.
Ouais, ouais, faut pas, ouais.
Bah, c'est un des derniers... C'est un des derniers États qui a des colonies.
Oui, oui. Hein,
donc c'est notable. Alors, on connaît la liste, hein, mais en fait, c'est une rareté. Les Anglais ont abandonné avec leur méthode à eux la colonisation, c'est-à-dire ils gardent de l'influence dans leurs anciennes colonies, mais ils n'ont plus formellement de colonies. La France a encore formellement des colonies, elle s'est même payé le luxe d'en créer une en transformant Mayotte en département de la République. Bon.
Ouais.
C'est pas le débat d'aujourd'hui.
Ouais.
Alors, je reste un petit moment sur cette question de la Cour internationale de justice pour vous rappeler en quoi ça se caractérise, enfin, ce qu'avait demandé plutôt la Cour internationale de justice, donc le 26 janvier. Elle avait demandé les choses suivantes. Et elle avait dit, à la demande de l'Afrique du Sud, la Cour indique les mesures suivantes. L'État d'Israël doit suspendre immédiatement ses opérations militaires contre Gaza. L'État, ça, c'était la première demande. Ça veut dire cesser le feu, tout de
ouais,
suite.
Bon,
donc,
le feu,
on
oui.
constate, le feu n'a pas cessé.
C'est l'Afrique du Sud qui a bien demandé.
C'est la demande. Hein, alors, on est dans le cas d'une plainte d'un État qui dit « Moi, je considère que la Convention n'est pas respectée. » Et donc, il y a la plainte, elle est argumentée. Ouais. Deuxième motif de plainte, l'État d'Israël doit veiller à ce qu'aucune unité militaire ou unité armée irrégulière qui agirait sous sa direction... avec son appui ou sous son influence, ainsi qu'aucune organisation ou personne qui se trouverait sous son contrôle, sa direction ou son influence, n'entreprenne une quelconque action visant à poursuivre les opérations militaires mentionnées au point 1 ci-dessus. Bon, ça n'a pas fait d'effet. Troisième point. La République sud-africaine et l'État d'Israël doivent, conformément aux obligations que leur fait la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide, prendre chacun, en ce qui concerne le peuple palestinien, toutes les mesures raisonnables en leur pouvoir pour prévenir le génocide. Alors on peut dire que l'Afrique du Sud, elle a fait ce qu'elle avait à faire, puisque précisément elle a porté plainte, et elle a porté plainte avec une autorité à la fois morale et politique, puisque en fait, ayant subi elle-même l'apartheid, elle était tout à fait en capacité historiquement de dire « je sais ce que c'est et j'en ai souffert ». C'est ce qui explique leur plainte. Ensuite, l'État d'Israël doit, conformément aux obligations lui incombant au titre de la Convention, toujours la même, s'abstenir de commettre l'un quelconque des actes visés à l'article 2 de la Convention, en particulier le meurtre de membres du groupe, les atteintes graves à l'intégrité physique ou mentale des membres du groupe. Bon, l'assassinat, ça en fait partie. La soumission intentionnelle du groupe à des conditions d'existence devant entraîner sa destruction physique totale ou partielle. On ouais, est exactement dans ce cas-là. On ouais. est à 30 000 morts, plus ceux qui sont sous les décombres, plus les blessés, et probablement plus...
100 000 en tout.
Oui, on est autour de ce nombre-là. Ensuite, donc, les mesures visant à entraver les naissances au sein du groupe. Alors ça, j'insiste beaucoup là-dessus, parce qu'on n'a pas compris pourquoi, alors que ça s'explique parfaitement bien, et c'est cynique de le reconnaître, mais en même temps, pourquoi viser les enfants systématiquement ? C'est parce qu'en visant les enfants, on n'élimine pas les Palestiniens d'aujourd'hui, on élimine les Palestiniens de demain. Donc c'est une volonté d'élimination d'un groupe humain. Ça, c'est très sensible. Et le nombre d'enfants victimes, c'est un tiers des victimes sont des enfants.
Plus de 10 000, quoi.
Voilà. Ouais. Et j'ai noté, par exemple, qu'il y a eu une audience la semaine dernière. Le Conseil de sécurité de l'ONU a auditionné un représentant de Médecins sans frontières,
oui.
qui est une organisation internationale qu'on connaît. Et ce monsieur est venu d'expliquer qu'il avait... Il a donné des détails, puisqu'ils ont quelques personnes sur place. Et il est venu expliquer qu'ils avaient été obligés de créer une catégorie spéciale de victimes qui n'existe pas dans leur protocole et dans leur méthode de travail, qui est l'enfant meurt sans, l'enfant blessé sans aucune famille survivante. C'est-à-dire qu'ils ont entre les mains des centaines d'enfants qui ont 3, 4, 5 ans, et dont toute la famille a été tuée dans un bombardement.
C'est l'orphelinat, quoi.
Oui, c'est l'orphelinat, mais c'est une catégorie, donc c'est des enfants dont la famille a été tuée, et c'est le survivant qui est là, qui est blessé, alors qui est blessé et qui en plus est mal soigné et risque de mourir d'une épidémie quelconque, puisqu'il n'y a plus de médicaments, etc.
C'est-à-dire, il y a eu ça en Syrie déjà, guerre en Syrie.
Voilà, toutes les raisons pour lesquelles on peut raisonnablement espérer, ce qui est mon cas, que la Cour internationale de justice, dans les jours qui viennent, confirme son jugement et dise, toutes les caractéristiques du génocide étaient déjà remplies, on vous a demandé d'arrêter, vous n'avez pas arrêté, donc effectivement, nous confirmons que le génocide a eu lieu, est en cours. Qu'est-ce que ça fera ? Alors là, je reviens toujours à mon glaive. La Cour internationale n'a pas de glaive. Alors, qu'est-ce qui va se passer ? Normalement, le Conseil de sécurité va être saisi. Soit c'est un des membres du Conseil de sécurité, donc soit un des 5 permanents, soit un des 10 autres, qui demande à ce que la question soit mise à l'ordre du jour. Et il va dire, la Cour internationale de justice ayant tranché et ayant reconnu le génocide, nous devons prendre une mesure pour le faire arrêter. Alors il va se passer ce qui s'est déjà passé, c'est-à-dire, très probablement, il y aura un veto des États-Unis qui bloquera l'action du Conseil de sécurité. À ce propos, je souligne, je rappelle que c'est la troisième fois, donc la semaine dernière, c'était mardi dernier précisément, que sur une demande qui émanait cette fois de l'Algérie, qui est en ce moment donc au Conseil de sécurité, sur les 15, ils sont tournants, donc il y a eu un nouveau vote, et à nouveau, pour la troisième fois, donc depuis le 7 octobre 2023, les États-Unis ont opposé leur droit de veto. Je souligne, parce que je pense qu'il faut le dire, et on ne mesure pas assez la perversité de la manœuvre. Oui. Dans la plupart des cas historiques où les États-Unis ont utilisé leur droit de veto au Conseil de sécurité, ils l'ont fait faire par un diplomate noir. Et ça, je considère que c'est une extrême perversion. C'est-à-dire qu'on ne peut pas... on fait faire le sale boulot par un afro-américain, ils nous ont compris, et je trouve ça insupportable de faire...
C'est comme c'était le ministre de la Défense.
C'est Colin Powell avec son éprouvette, c'est pareil.
Et même, comment il s'appelle...
Je ne sais pas si vous nous souvenez de ça, Colin Powell avec son éprouvette, ça ne vous dit rien.
On peut peut-être répéter pour tout le monde.
Alors, Colin Powell, donc il est le secrétaire à la Défense, donc le ministre de la Défense nationale de George Bush, le fils. Donc on est au moment où se prépare la campagne pour agresser l'Irak, pour envahir l'Irak. Cette campagne donne lieu à une réaction internationale très très importante. Il y a eu un mouvement anti-guerre, comme on l'a appelé à l'époque, donc à partir de 2002, quand en gros les États-Unis ont commencé à annoncer qu'ils allaient envahir l'Irak, et personne ne voulait que cette guerre ait lieu. Et ils sont allés devant le Conseil de sécurité qui a refusé. Avec en tête du refus l'Allemagne et la France en particulier, qui
Chirac,
Chirac et d'un fameux discours de Dominique de Villepin à l'Assemblée des Nations en disant vous n'avez pas le droit de faire ça. Bon. Résultat, les États-Unis sont allés quand même, et ce qui avait déclenché, donc qui avait montré que la décision de toute façon était prise, c'était que Colin Powell, donc cet afro-américain, était venu à l'Assemblée avec une petite fiole en disant là-dedans, il y a de l'anthrax, et l'anthrax qu'il y a là-dedans, ça suffit à tuer des millions de personnes si on le disperse dans la nature. Bon. Ça n'avait pas changé la position du Conseil de sécurité, donc les États-Unis avaient attaqué l'Irak sans accord du Conseil de sécurité, mais ils avaient décidé d'y aller, ils étaient allés. C'est pour ça que je rappelais le nom de Colin Powell, qui est célèbre. Et donc ce n'est pas la première fois, et c'est assez fréquent qu'ils envoient un diplomate ou un ministre afro-américain pour plaider leur cause, leur mauvaise cause en l'occurrence. Bon, c'est triste, mais c'est comme ça que ça se passe.
Et finalement, les fioles, il n'y avait rien dedans.
On ne sait pas. Puis il n'aurait pas pris le risque de la faire casser sur son bureau.
Non, je veux dire, il n'y avait rien.
On ne sait pas. L'anthrax, ça existait.
D'après ce qu'ils ont dit.
J'allais pas lui faire courir, risquer sa vie pour avec sa fiole. S'il était tombé dans les couloirs, tu vois. On ne peut pas imaginer. Ouais. Voilà, donc c'est bien d'en rire, et en même temps, il faut savoir que c'est ça qui est en cours, donc il y a un génocide en cours, les États-Unis vont s'y opposer. Alors, qu'est-ce qui peut se passer à partir de ce moment-là ? Il est possible que l'Assemblée générale se saisisse de l'ordonnance de la Cour internationale de justice en disant maintenant il faut faire quelque chose. Et à ce moment-là, la Cour internationale doit... Pas, elle doit dire, il faut que vous fassiez quelque chose, l'Assemblée générale peut statuer à la majorité des deux tiers. Donc dans le cas concret, c'est très possible que si la semaine dernière, la semaine prochaine ou dans 15 jours, l'Assemblée générale se saisit du dossier après un nouveau veto des États-Unis, elle dise il faut effectivement prendre des mesures contre l'État d'Israël. Alors elle ne prendra pas des mesures militaires, mais elle pourra prendre des mesures du genre, je souligne ce qui a été pris du temps de l'apartheid contre le gouvernement en Afrique du Sud. L'Afrique du Sud a été suspendue de sa participation à l'ONU, c'est-à-dire mis dans le coin comme les vilains. Il y a d'autres mesures possibles, des sanctions, des retraits, des refus de relations diplomatiques. Il y a déjà 5 États qui ont rompu leurs relations diplomatiques avec Israël, d'autres peuvent le faire. Enfin, on peut mettre un peu Israël en accusé dans un coin et lui rendre la vie un peu plus difficile.
Ça, il y a déjà pas mal, il y a plus de 2/3 hein, voilà, qui sont pas...
Voilà, qui, au moment où il y a eu des votes à l'Assemblée générale là-dessus, déjà c'est clair. Donc je pense que des mesures que prendrait l'Assemblée générale ont de bonnes chances d'être prises si le Conseil de sécurité continue à opposer son veto. On verra ça c'est pour la quinzaine qui vient. Mais ce n'est pas impossible et il faut garder ça dans l'esprit, c'est-à-dire que cette espèce d'impuissance statutaire de la Cour internationale de justice peut quand même déboucher sur des actions concrètes qui amèneraient à la fois les États-Unis et Israël à arrêter ce qu'ils sont en train de faire. J'insiste sur parce que c'est bien les deux qu'il s'agit, puisqu'il faut savoir que c'est un des motifs que je n'ai pas cité, mais donner des armes à Israël pendant qu'il est en train de commettre un génocide, c'est être complice du génocide. De la même façon que quand M. Macron dit « je vais envoyer tant de milliards d'euros ».
Non, mais là, il veut envoyer des militaires. C'est pas
ça. Là, c'est en Ukraine. Voilà pour ce qui était de la situation donc, dans ce coin du monde. Bon, sur les horreurs de cette guerre, peu à dire de plus qu'on a déjà dit. Simplement, je voulais signaler qu'il y a des failles dans les systèmes politiques des uns et des autres. Alors la première faille, qui n'est pas une faille au sens négatif, c'est que le premier ministre palestinien... Vous savez que l'autorité palestinienne, c'est une espèce de gouvernement tout à fait reconnu, fantoche, voilà, la Palestine, mais il est reconnu comme tel internationalement. Et donc, il y a un président qui est Mahmoud Abbas, et puis un premier ministre qu'on a vu en particulier à la dernière séance de l'Union africaine, là. Il a donné sa démission avant-hier. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils sont conscients. Mais alors, il faut un peu simplifier, mais c'est quand même comme ça que ça se passe. Le camp palestinien n'est pas unifié politiquement. Ouais. Et ça, Israël a fait tout ce qu'il fallait pour que ce soit exactement comme ça que ça se passe.
C'est une faiblesse.
Que le camp palestinien soit divisé. Et donc, il était clairement divisé à la fois politiquement et géographiquement, puisque le Hamas était le maître à Gaza, puisqu'il avait été élu à Gaza par les populations gazaouites. Et puis, les autres, le Fatah et donc le groupe de Mahmoud Abbas, étaient majoritaires dans le reste, donc en Cisjordanie, dans les autres territoires. Et donc là, on a deux lignes politiques et deux attitudes qui, jusqu'à présent, étaient opposées. Et puis, Israël s'était fait un plaisir de les diviser le plus possible. Ce qui explique qu'on ait dit à un moment donné, l'attaque du Hamas a été suscitée par Israël, l'attaque du Hamas, parce que comme ça, ça les arrangeait, plus ils divisaient les Palestiniens entre eux. Bon. Il est, pour moi, ce que signifie la démission donc, du premier ministre palestinien, c'est la chose suivante. C'est-à-dire que la direction palestinienne et tous les groupes qui participent aux actions sur le terrain en ce moment, dont le Hamas, mais il n'est pas le seul, et le Fatah, qui est le parti donc, du président de l'autorité palestinienne, ont pris conscience qu'ils ne pouvaient pas avancer dans la constitution d'un État palestinien s'il n'y avait pas une unité des Palestiniens. Unité à minima, mais une unité sur un programme, on est d'accord, on veut ceci, parce qu'à ce moment-là, une fois qu'il y a une unité des Palestiniens, la position internationale qui est celle de la Chine, qui est celle de la Russie, qui est celle de l'Union européenne, même celle de l'Union européenne, consistant à dire l'État palestinien, il a été admis dans son principe à la résolution de 1947 aux Nations Unies, dès l'instant où il y a une direction palestinienne unifiée, on est obligé de dire que c'est eux qui doivent prendre la direction de la Palestine à créer. Et à ce moment-là, elle devient un vrai État. Et ce qui change tout, parce que si elle devient un vrai État, elle peut définir ses frontières, elle peut se constituer une armée, elle peut vivre en tant qu'État, même petit. Mais Israël n'est pas très grand non plus. Donc, voilà. Mais c'est ça qui se prépare, à mon avis, dans les coulisses de la diplomatie et dans les coulisses palestiniennes, c'est-à-dire la reconnaissance du fait que si les Palestiniens ne sont pas unis, leur État ne verra pas le jour.
C'est vrai.
Et c'est une circonstance historique, il faut qu'ils la saisissent absolument, parce qu'autrement, s'ils continuent dans leur division, suscitée, même financée, on sait qu'il y avait des pays étrangers qui donnaient de l'argent, et pas à l'autre et à l'un, pour qu'ils s'entretuent, ça a eu lieu dans la résistance palestinienne, ça fait partie de sa triste histoire. Mais triste histoire en ce sens que toutes les luttes de décolonisation qu'on connaît, on connaît bien, nous, la lutte de décolonisation algérienne. On sait très bien qu'il y a eu des conflits internes, même des assassinats d'un groupe contre un autre, au moment de la création du Front National de Libération. Donc, c'est jamais très très simple, une lutte de décolonisation. Bon. Et donc, si la direction palestinienne s'unifie, à ce moment-là, elle est en capacité de dire « Moi, je suis unifié, j'ai un programme minimum, c'est constituer l'État sur une base qui nous rassemble tous. » Et donc, à ce moment-là, tous ceux dans la communauté internationale, et ils sont la très, très grande majorité, ONU compris, diront effectivement, maintenant, on a une direction palestinienne qui veut un État palestinien. On vous le donne.
Mais alors, qu'est-ce que ça devient, le Oslo ?
À Oslo, qu'est-ce... ça n'a pas de sens. Oslo, ça n'a pas de sens, en ce sens que c'est... Justement, alors, c'était les faux États. C'était les faux États. Si on vous dit Oslo, on dit aux Israéliens, on sort du cadre de l'ONU, l'international n'a plus rien à dire, la communauté internationale, on dit à Israël, essayez de trouver un arrangement avec les Palestiniens, ceux qui voudront bien parler avec vous. Et on en trouve toujours. Hein, on peut toujours trouver qui disent « Ah, c'est un moindre mal, ben on aura au moins ça, on aura un petit bout de territoire aussi. » Bon, et on en est arrivé à la situation qui est celle de l'autorité palestinienne à l'heure actuelle, qui en fait, l'autorité palestinienne, elle est dotée d'une police, petite police, qui fait en fait plus la police des Palestiniens que
des Israéliens.
Voilà, pour le compte des Israéliens, ouais. Plutôt que d'empêcher les Israéliens de nuire sur le sol palestinien. Donc en fait, ça a été mesuré, et donc il ne faut surtout pas, c'est pas à Israël de décider ce que sera l'État de Palestine, c'est à l'ONU de décider ce que sera l'État de Palestine, et à la communauté internationale d'en décider. C'est pas Israël d'en décider. C'est pas le colonisateur qui décide de l'avenir du colonisé, c'est tout. C'est aussi bête que ça. Bon, ça, on est sur ce chemin-là. Ça, c'est côté palestinien. Côté israélien, on est aussi, à mon avis, sur ce chemin, encore de façon plus discrète, parce qu'il y a un ancien Premier ministre qui s'appelle Ehud Olmert,
ouais.
Qui était donc plutôt de la gauche sioniste, pour faire simple, qui était un travailliste, qui a déclaré que Netanyahou faisait fausse route. Alors ça, c'est quand même très important, parce que jusqu'à ces derniers jours, on avait des intellectuels palestiniens ou des intellectuels israéliens qui disaient « ça va pas, la politique de Netanyahou, etc. » Mais ça s'arrêtait là, c'était des propos individuels.
Le problème est devenu transparent.
Voilà, tout à fait.
Netanyahou...
Voilà. Mais c'est vrai que quand c'était un journaliste dans Haaretz qui se prononçait là-dessus, bon, c'était un journaliste de Haaretz, d'ailleurs, là, il va qu'à ses occupations, il va, il vient, on le passe à la télévision, ça ne fait rien. Hein. Par contre, si effectivement un ancien Premier ministre dit à Netanyahou « il faut arrêter, ta politique est suicidaire », ça commence à dire qu'il y a un vrai craquement à l'intérieur de la société politique israélienne. C'est ce craquement-là qui doit amener aussi ces gens-là, s'ils arrivent à pousser Netanyahou à l'extérieur ou à le faire changer d'attitude, à dire effectivement maintenant il faut qu'on s'affronte à cet État palestinien qui peut maintenant être créé si l'unité palestinienne est réalisée. Ça c'est... Alors je rêve un peu tout haut devant vous, mais c'est ce qui est en train de se passer. Alors sur la base des douleurs épouvantables et des morts à Gaza, mais c'est ce choc-là, ce choc émotif politique très très fort qui fait que dans les deux camps on est obligé de penser à l'avenir, à penser aux survivants. Il y aura aussi des survivants.
Et c'est la première fois dans l'histoire d'Israël il y a des manifestations. C'est la première fois.
Tout à fait.
Attention.
Des manifestations contre les actions.
Oui.
Oui. Pour les otages, quoi.
Bon, alors, c'est surtout... Ça, c'est plutôt...
Là,
oui.
Il faut voir un peu le problème.
Au départ, c'était surtout des manifestants, des familles, des otages, donc des gens qui ont été faits prisonniers le 7 octobre, plus que des manifestations contre Netanyahou. C'est-à-dire, ils exigeaient que Netanyahou réussisse son opération pour libérer les otages.
C'est ça.
Et Netanyahou transformait ça. La traduction de Netanyahou, c'est dire ben, « je rase Gaza et donc je récupère les otages de facto ». C'est pas évident, parce qu'à mon avis, même s'il rase Gaza, il rasera aussi les otages avec. Bon, c'était un calcul assez bizarre.
Mais l'erreur commise, c'est qu'il s'est mis avec l'extrême, avec les extrêmes, c'est ça
qui... Pour rester au pouvoir, pour arriver au pouvoir, puisqu'on sait qu'avant la dernière élection qu'il a mis au pouvoir, ça faisait 3 ans qu'il faisait des élections tous les 6 mois, ils n'arrivaient pas à faire une majorité. Donc là, ils y sont arrivés, ils ont fait la pire majorité possible, donc on en voit les résultats sur le terrain. Voilà ce que je voulais dire pour commencer donc sur la Palestine et Israël, avec donc à la fois la poursuite de l'horreur, l'espoir quand même que la Cour internationale de justice clarifie, enfin, aille jusqu'au bout de son analyse qui est la bonne, hein, et que l'ONU et les membres de l'ONU passent aux actes, c'est-à-dire ne disent pas, on se contente d'un papier qui dit « Ah ben c'est pas bien ce que vous faites, maintenant il faut qu'il y ait une punition ». La punition, alors, elle est très facile, c'est-à-dire il suffirait d'envoyer de l'argent et des armes en permanence. Il faut savoir qu'il y a un véritable pont aérien d'armement de tes amis qui arrive tous les jours en Israël pour être tiré sur Gaza. Bon.
Donc, puis on a envoyé deux grands navires de guerre.
Oui, oui, alors qu'ils n'ont pas servi à grand-chose, mais enfin... Oh, voilà. Et je finis sur l'État palestinien pour mettre le doigt sur un truc que j'ai découvert, sur lequel j'ai travaillé ces jours-ci, qui était l'accès à la mer. Vous savez que pour un pays, l'accès à la mer, c'est très important, et les pays qui n'ont pas accès à la mer ont d'ailleurs un statut protecteur à l'ONU, on les considère comme des États enclavés. Je pense à la Bolivie, je pense à certains États africains. Effectivement, ne pas avoir accès à la mer, c'est ne pas avoir accès librement au commerce international, être obligé de passer chez un autre qui va vous laisser passer ou ne pas vous laisser passer, ou vous prendre des taxes, etc. Bon, c'est pas très facile à vivre, l'enclavement. Bon, il se trouve que dans la définition du périmètre de la Palestine telle qu'elle a été arrêtée par l'ONU en 1947, il y a un accès à la mer qui est Gaza, et uniquement Gaza. Hein, les autres morceaux, la Cisjordanie, ça n'a pas accès à la mer. Et donc, effectivement, priver la Palestine de Gaza, pour les sionistes, c'est priver le futur État palestinien d'un accès à la mer, c'est-à-dire de l'enclaver et de l'obliger, en fait, à passer à travers le territoire israélien pour arriver au monde extérieur.
Et il y a une nappe de gaz aussi.
Voilà, alors derrière ça, il y a les richesses sous-marines.
Ah oui.
Et donc, ce qui est important à noter, donc, il y a un accès à la mer qui donnerait donc droit à un État palestinien normalement reconnu à faire respecter ses eaux territoriales. Il y aurait au large de Gaza une bande de 12 nautiques, hein, donc 20 km à peu près, qui seraient les eaux territoriales de la Palestine, dans lesquelles n'importe quel navire étranger du monde pourrait accéder. C'est-à-dire qu'on pourrait avoir des bateaux porteurs de tout ce qu'on veut, y compris de médicaments, y compris de nourriture pour la population palestinienne. Alors ça, évidemment, c'est très très dérangeant, et ça explique l'espèce d'acharnement qui n'est pas un acharnement uniquement anti-Hamas d'Israël, c'est-à-dire éviter une bonne fois pour toutes que la Palestine ait un accès à la mer. Bah, si elle se réduit à la Cisjordanie, sans Gaza, effectivement, ils sont enclavés, ils sont coincés entre des gens qui ne sont pas leurs amis, les Jordaniens, des gens qui sont leurs amis mais qui ne sont pas très costauds, les Libanais, et l'Égypte, sur lequel je vais m'arrêter, parce qu'il y a beaucoup à dire sur l'Égypte. Bon. Et donc cette histoire du droit maritime et de la façade maritime est très très important. Et ce qui s'est passé quand le fameux gaz sous-marin qu'évoque Habib a été découvert, c'est que l'Égypte s'est mise d'accord avec Israël pour dire « Ben voilà, toi tu t'arrêtes ici, moi je m'arrête là », et les Palestiniens, on les a pas vus. Hein ? Ils sont fait comme s'ils n'existaient pas. Et en fait, il se trouve que l'autorité palestinienne a laissé faire, elle a demandé à avoir une commission sur la vente du gaz, mais enfin, elle s'est fait... Allez, je fais de méchant, rouler dans la farine. C'est à peu près ça.
Bah, ils peuvent rien faire.
Ben non, ils peuvent, voilà, c'est ça.
Problème, c'est que...
Donc cet aspect est important, puisque un accès maritime, ça veut dire un accès au monde extérieur, ça veut dire c'est une bouffée d'oxygène sur le monde extérieur. C'est l'accès à la liberté de commerce, à la liberté de circulation. Voilà. Et il pourrait même arriver des navires, à la limite, l'État palestinien avec son ouverture à Gaza pourrait accepter qu'un navire de guerre, je ne sais pas, d'un pays ami quel qu'il soit, je ne cite pas de nom, vienne protéger l'accès des côtes palestiniennes contre une attaque de l'armée israélienne et de la marine israélienne. Ça serait une autre situation. Bon, je rêve un petit peu, mais c'est important de rappeler ces données. Et puis j'en viens à parler de l'Égypte, puisque je l'ai évoqué. Alors l'Égypte. L'Égypte, j'aimerais pas être à la place du maréchal Al-Sissi, parce qu'il est dans une situation extrêmement compliquée.
Compliquée, ouais.
D'abord, situation globale de l'Égypte, 110 millions d'habitants à nourrir, avec une capacité de production agricole relativement faible, parce qu'on ne produit que dans la vallée du Nil. Ça, c'est historique, mais quand il y a 110 millions d'habitants, c'est plus compliqué que quand il y en avait quelques millions au moment des pharaons. Et donc, déjà, il est dépendant de nourriture de l'extérieur. Du blé principalement, il y a eu des émeutes du pain plusieurs fois en Égypte, il est dépendant. Deuxièmement, politiquement, il est un peu affaibli en ce sens qu'il a pris le pouvoir à la suite d'un coup d'État. À un coup d'État qu'il a réalisé en éliminant un groupe politique et son leader, qui était M. Morsi, qui étaient les frères musulmans.
Oui.
Les frères musulmans qui voulaient prendre la haute main sur l'Égypte et qui ont, à mon sens, ça ne m'étonne pas d'eux, mais commis l'erreur de dire les frères musulmans ont le pouvoir, donc l'arrivée de Morsi par des élections, et donc on prend tout, c'est-à-dire on ne laisse plus la place à quelque autre courant politique.
Les frères musulmans, ils sont répandus dans tout le Moyen-Orient.
Dans tout le monde arabe.
Il ne faut pas oublier.
Voilà, donc, voilà. Et ils ont une tendance au monopole de pouvoir.
Ouais,
c'est ça l'erreur qui a été commise par l'équipe de Morsi, c'est-à-dire on veut tout et on ne veut surtout pas qu'il y ait d'opposition et on ne veut surtout pas que d'autres courants puissent s'exprimer en Égypte, d'où le coup d'État organisé par l'armée dont Al-Sisi est le fruit. Donc là aussi, situation politique délicate parce qu'il sait qu'il a des ennemis à l'intérieur, les libertés publiques sont pratiquement réduites à pas grand-chose, il n'y a pas en Égypte de manifestation pro-palestinienne depuis le 7 octobre, il faut le savoir. Parce qu'il se dit, ça serait l'occasion pour ceux qui ne m'aiment pas, ça je pense à la place de Al-Sisi, de s'exprimer contre moi. Et oui, puisqu'il dirait, qu'est-ce que vous faites pour les Palestiniens? Et ils auraient raison de le dire. Donc, effectivement, on est tout à fait dans cette situation-là. Donc, deuxième problème pour Al-Sisi. Troisième problème, j'ai parlé du Nil, les eaux du Nil. Parce que ça, c'est un problème qui n'est pas réglé. Les eaux du Nil, parce que le Nil, on le sait, ne prend pas sa source en Égypte, mais il prend sa source beaucoup plus au sud, en particulier en Éthiopie. Pas toutes, mais une partie des sources du Nil sont en Éthiopie. Et il se trouve que l'Éthiopie a commencé à mettre en eau un immense barrage qui est sur son territoire, qui permet de fait de réguler le débit du Nil. Alors, ça a l'air de rien, réguler le débit du Nil, ça veut dire envoyer de l'eau en proportion et en quantité suffisante pour irriguer toutes les terrasses le long du Nil, ou ne pas en envoyer suffisamment. C'est-à-dire que c'est l'espèce de droit de vie et de mort sur l'agriculture égyptienne et sur l'agriculture soudanaise, qui est à peu près dans la même situation.
Même situation, bon. Ouais.
Alors, il se trouve que là aussi, il y a eu des discussions qui n'ont pas abouti, qui sont pour l'instant dans l'impasse. Les relations entre l'Égypte et l'Éthiopie sont mauvaises pour l'instant, entre Al-Sisi et le président éthiopien, le premier ministre éthiopien. Et donc, on est bloqué là-dessus. On est bloqué là-dessus. Et le risque, effectivement, c'est qu'il y a un peu moins d'eau qui arrive en Égypte et que, de fait, la petite agriculture résiduelle égyptienne, je dis résiduelle parce qu'elle ne peut de toute façon pas nourrir tout le monde, soit encore plus faible qu'elle n'était auparavant. Donc c'est encore une faiblesse supplémentaire. Et on sait, je dis que la question de la nourriture de base est un élément central de la politique de l'Égypte.
Les chutes
du barrage
du Nil bleu, on l'appelle
le barrage.
C'est un nom, oui. Les grandes chutes.
C'est pas de chutes.
L'Éthiopie, oui.
Ah, il y a des chutes, mais non, là le barrage, il a fait une réserve naturelle immense. Oui.
Oui. Voilà. Il n'y a pas eu. Bon, je sais pas, je me rappelle plus, non.
Non, enfin, je pense pas. Deux choses. Alors, dernière chose concernant l'Égypte et sa situation économique, deux choses. D'une part, le canal de Suez. Alors, le canal de Suez, vous savez que depuis la nationalisation par Gamal Abdel Nasser, le canal est une des ressources budgétaires principales de l'Égypte. Il se trouve que depuis les interventions des Houthis sur la navigation donc dans la mer Rouge, le chiffre d'affaires du canal de Suez a diminué de 30%. Donc les caisses de l'État égyptien sont quasiment vides.
Il n'en parle pas, hein. On n'entend pas parler.
On n'entend pas parler.
C'est vrai.
Deuxièmement, du fait de cette difficulté financière, l'Égypte est le pays du monde le plus endetté auprès du FMI après l'Argentine, c'est-à-dire dramatiquement endetté. Ce qui fait qu'en fait, quand on est endetté auprès du FMI à ces niveaux-là, c'est le FMI qui gouverne à votre place et qui vous dit « faites ci ou faites ça », vous n'êtes plus indépendant. Et vous dépendez du dollar. Donc vous dépendez de qui fabrique les dollars. C'est ça qui est très très important à comprendre. Donc voilà l'équation impossible de Al-Sisi, à laquelle on ajoute que ce qui se passe à Rafah, donc à l'extrémité sud de la bande de Gaza, le concerne très directement et a pour lui débouche sur une attitude assez discutable, puisqu'en fait, il ne veut pas que les Palestiniens, si jamais ils quittent Rafah et quittent Gaza, rentrent sur le territoire égyptien, parce qu'il les considère comme des dangereuses entités et qui viendraient troubler la situation égyptienne. Et donc il est en train, on l'a vu, ça y est, c'est montré et tout à la télévision, il est en train de créer une espèce de Gaza bis sur le sol égyptien. C'est-à-dire, il est en train de se prêter à être le gardien de la prison israélienne, palestinienne sur le sol égyptien. Ça, ça passera très très mal aussi dans l'opinion publique égyptienne et dans l'opinion de tous les pays arabes. Voilà le rôle que vous jouez. Vous êtes une espèce de sous-traitant de la prison palestinienne. Donc ça, c'est très,
ça
très
chauffe,
difficile.
Hein, ça
ah oui.
Chauffe.
Donc il est dans une situation difficile. Ce qu'il laisse faire en plus, et ce qui confirme que c'est bien son attitude de prendre de faire le travail de garde-prison, de maton, j'allais dire, pour prendre le vocabulaire français, c'est que il a laissé des citoyens israéliens, alors qu'ils se présentent avec les oripeaux de la non-violence, ça fait toujours très très joli, qui se sont installés sur le sol égyptien, de l'autre côté de la frontière à Gaza, et qui, en étant assis par terre, en ayant des banderoles, en allant interpeller...
Empêcher les camions.
Empêche les camions qui sont porteurs de l'aide humanitaire, donc de la nourriture et de l'eau, de rentrer.
Et de l'aide
alimentaire.
Alimentaire périmée.
En plus, qui m'a à force, elle est périmée.
Ils étaient obligés de jeter pas mal.
Et donc, en fait, l'Égypte laisse faire cette obstruction à l'alimentation des Gazaouis.
Internationalement, est-ce qu'il y a moyen de condamner les États qui sont complices
tout
du
à
massacre
fait.
Qu'est-ce qui se passe pour les Français, pour l'Égypte par exemple?
Alors, tout à fait, puisque dans les attendus là, dans la Convention pour le génocide, la complicité du génocide, c'est ça, empêcher de l'aide alimentaire et tout ça, c'est clair. Alors, à telle ancienne qu'il y aura probablement, j'espère, un procès contre la République française, mais je vais y venir à propos de l'UNRWA, mais c'est fondé juridiquement. Hein. Okay. Et il pourrait y avoir des avocats français qui, à la demande d'une association française, diraient « Monsieur Emmanuel Macron a empêché l'aide alimentaire de venir à Gaza, donc il est complice de génocide. Hein. »
Ouais.
Ça serait un procès très très intéressant. Ouais. J'ai pas trouvé encore de candidat à le faire. J'aimerais bien. Mais c'est une idée qui est à creuser, qui existe et qui est très 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 intéressante à suivre. Bon, voilà pour l'Égypte. Alors, situation très très délicate pour lui, parce qu'il est montré du doigt par ce qu'on appelle l'opinion arabe en général. Mais tu laisses faire, hein, tu vas accueillir des Palestiniens s'ils quittent Gaza et tu vas les enfermer dans un autre camp de concentration. C'est pas très brillant ton rôle. Hein. Et donc, lui, il est très mal à l'aise avec ses problèmes de recettes financières, de dettes.
Il y a un autre problème,
oui.
Celui des otages.
En plus.
Oui, en plus.
Oui, oui.
Avec le Qatar, l'Égypte,
tout à fait.
La France qui reçoit les gens-là pour essayer de discuter, d'arrêter de faire. Voilà.
On n'en a pas parlé, mais tu sais vers quoi ça débouche. Il est allé discuter avec le président de la Somalie. On en a parlé la semaine dernière. Ouais. Alors la Somalie fait partie de ce jeu-là, parce que tout ça se passe autour de la mer Rouge, dans ces coins-là. La Somalie est en conflit avec l'Éthiopie, parce que l'Éthiopie, au 1er janvier de 2024, a reconnu une partie de la Somalie qui a fait sécession, voilà 30 ans, qui s'appelle le Somaliland.
Ouais.
Qui fonctionne, qui a une armée, qui a des gouvernements, qui a tout ce qu'il faut.
De base, quand même.
Voilà. Oui, non, ça marche, mais elle n'a pas été reconnue parce qu'on n'a pas laissé l'État somalien se couper en deux. Et il se trouve que depuis donc, que l'Éthiopie a reconnu le Somaliland, avec lequel elle a passé des accords pour pouvoir utiliser leur territoire pour pouvoir accéder à la mer et au commerce international, il y a une tension extrêmement forte entre la Somalie donc, et son premier ministre, monsieur le cheikh Hassan Mohamud. Et ce qui se passe, c'est que l'Égypte est en train de dire « je vais aider le président somalien à lutter contre l'Éthiopie ». Alors il se mélange la question des eaux du Nil, la question du Somaliland. On a un coin de la planète qui est absolument explosif de ce point de vue-là. C'est un très très important à noter.
Et surtout la mer Rouge.
Alors la mer Rouge, il faut savoir qu'une bonne partie de la navigation internationale passe désormais par l'Afrique du Sud, par le Cap de Bonne-Espérance, d'où la chute des recettes du canal de Suez. Ouais. Donc il y a, alors ça aussi, des incidences pour tout le monde. C'est augmentation des coûts de transport, donc augmentation des prix des marchandises venues d'Asie qui sont destinées à l'Europe, etc. etc.
Et tout va. D'après ce que j'ai appris par... la télévision,
oui.
Al-Mayadine, il disait que les recettes de l'Égypte n'ont pas beaucoup changé. Contrairement, il paraît qu'il n'y a pas eu beaucoup, parce que le Bab el-Mandeb n'est pas fermé. complètement pour tout le monde. Elle est fermée uniquement pour les navires israéliens. Et là, actuellement, les Américains et les Anglais. Voilà.
Moi, les derniers chiffres que j'ai eus, c'est ceux-là. Hein. 30% de recettes en moins. Non, mais ce qui se passe, c'est qu'en fait, il y a beaucoup de bateaux, comme les bateaux de la CMA-CGM français ou d'autres,
qui se disent, il y a
des risques, ça ne se passe pas toujours bien, donc autant dire on détourne le trafic une bonne fois pour toutes. On l'a déjà fait.
CMA-CGM,
voilà, c'est plutôt ça, le raisonnement. C'est pas le risque en tant que tel, mais c'est dire c'est compliqué, d'un jour à l'autre ça peut changer. Il y a des navires de guerre britanniques et des États-Unis qui sont là pour tirer sur les Yéménites. Enfin, la situation est quand même un petit peu difficile. Donc ils pourraient faire dire, bon, on coupe direct par le sud et on n'en parle plus.
Parce que les Yéménites, les Houthis, ils n'ont pas empêché les autres navires de traverser.
Non, ils les ont laissés. Mais c'est des décisions. C'est des décisions prises de la gestion de la flotte, tranquille. Il ne faut pas que sur chaque bateau, l'état-major de la CMA se dise celui-là, je le fais passer, celui-là, je ne le fais pas passer, où il va, etc. Donc ils disent, allez, on tire tout droit sur le cap de Bonne-Espérance et on n'en parle plus. De toute façon.
C'est très long quand même. Hein.
Ça fait 3 semaines de mer en plus. Donc de toute façon, les prix à l'arrivée vont augmenter à proportion du coût du transport. C'est nous qui paierons. C'est pas grave. On connaît cette musique-là. Elle a déjà fonctionné. Alors après, bien sûr, on a des beaux discours sur nous auto-centrer, être autosuffisant pour des tas de choses. Oui, on le dit. Mais on a vu que quand on essaye de ne pas aider les agriculteurs, ils ne s'acheminent pas non plus vers le maintien de ce qu'on appelle l'autonomie alimentaire. Ça fait partie des débats annexes. Mais effectivement, on a beaucoup entendu ce thème de l'autonomie alimentaire au moment des mouvements des paysans. Mais en fait, c'est pas si facile à mettre en œuvre que ça. Et puis, il faut qu'il y ait des règles internationales qui le permettent. C'est-à-dire que dès l'instant où vous avez, je mélange deux sujets, mais des mains ouvertes aux traités de libre-échange systématiques. Je signe des traités de libre-échange avec tout le monde. Donc j'accepte de laisser rentrer n'importe quel produit de n'importe où, à n'importe quel prix, sans contrôle. Alors ça vaut, il y avait la discussion pour le Mercosur, il y a eu un accord de libre-échange avec le Kenya, il y a eu un accord de libre-échange avec d'autres, avec la Nouvelle-Zélande et tout. Donc dès l'instant où on signe un accord, l'Union européenne et la France l'appliquent, dès l'instant aussi des accords de libre-échange comme ça, on sait qu'on va exposer son agriculture qu'on veut autosuffisante, ça c'est un autre discours qu'on tient simultanément, à une concurrence qu'elle ne supportera pas. Sans compter les histoires de pollution, de produits toxiques, etc. Bon. Donc on ne peut pas tenir deux discours à la fois, mais la réalité concrète, c'est le libre-échange. Et dès l'instant où vous avez dit les produits peuvent venir librement, sans contraintes, sans taxes, sans vérification des normes sanitaires, bon, vous mettez l'agriculture française à la porte. Elle ne sert plus à rien et elle est trop chère. Bon, n'en parle plus. Peu importe ce qu'on mange, nous.
C'est ça.
C'est à peu près ça.
Oui, c'est vrai.
Comme ça, tous les sujets se mélangent. Et comme ça, on voit, alors dans le même ordre de discours incohérent, on voit M. Macron, c'était hier, donc j'en parle un petit peu, réunir donc 27 pays donc de l'Union européenne principalement pour dire il faut y aller en Ukraine. Alors, dans le même discours, ben ça c'est du Macron tout pur, il dit à la fois ça, mais il dit en même temps mais tout le monde n'est pas d'accord. Mais allons-y, mais on verra bien si tout le monde vient. Bon. Ça a produit un effet politique immédiat, c'est-à-dire que vous avez le Rassemblement national et les Républicains, qui, dans la journée, disent « il veut nous envoyer à la guerre, affreux hein ». Bon. Il se trouve que ces mêmes partis-là, alors vous dire c'est bien, ils ne veulent pas que les citoyens français, les jeunes gens français aillent se faire tuer sur le sol ukrainien, c'est très très joli. Mais il se trouve que ces partis-là, chaque fois que les intérêts de la population française massive, je veux parler des retraites, je parle des paysans, je veux parler de toute une autre série de textes, chaque fois que c'était des intérêts quotidiens immédiats de la population française, ces partis-là ont laissé Macron travailler. Alors qu'ils fassent de l'agitation sur le fait « Macron veut envoyer des soldats en Ukraine », c'est très facile et ça fait partie de la campagne pour les élections au Parlement européen et rien d'autre. Et il leur a d'une certaine façon, c'est pour ça qu'il faut qu'on y réfléchisse, il leur a donné un terrain sur lequel ils peuvent faire beaucoup de bruit, faire beaucoup de démagogie. Nous, on ne veut pas la guerre, alors qu'au moment où il y avait des manifestations pendant des mois les retraites, ils ont tout laissé faire, Ils ont laissé passer tous les 49-3, ils ont tout laissé passer. Alors c'est très très joli, mais ça je pense que c'est lui qui est extrêmement pervers dans sa façon de conduire la politique, il s'est dit, je vais les mettre là-dessus, ils vont faire beaucoup de bruit autour. Ils vont avoir probablement à la suite de ça un des groupes parlementaires les plus importants au Parlement européen. Et donc j'aurais réussi mon coup, c'est-à-dire j'aurais réussi mon coup.
Moi je ne comprends pas, c'est qu'il veut aider l'Ukraine alors que l'agriculture a besoin.
Mais bien
l'agriculture française
mais bien sûr, bien sûr. Hein? Et puis alors, je ne veux pas parler, mais ça c'est aussi dans le débat. Pourquoi les poulets ukrainiens sont immangeables? Parce que les poulets ukrainiens, ils sont élevés sans aucune norme, dans des fermes énormes, appartenant alors non pas aux paysans ukrainiens, parce que là on sait, on a vu les photos et tout, il s'agit d'énormes usines à fabriquer du poulet dans les pires conditions pour l'espèce gallinacée possible. Bon, on le sait, mais on laisse rentrer, comme on a laissé rentrer le blé, comme on a laissé rentrer les pommes de terre ukrainiennes et tout. Au point que maintenant, il y a des paysans polonais qui demandent l'aide de la Russie pour arrêter les exportations de produits agricoles ukrainiens. Bon, on a une confusion totale.
La poule ukrainienne, elle vaut 2 euros.
Ok.
Voilà. Voilà. Donc on est dans les incohérences totales. Où j'en étais? Donc, pour parler de ça. Oui, je continue. Ah oui, on approche de la fin, là. L'air de rien. Peux poser des questions si tu as envie. Hein.
Mm-hmm. Quand j'en ai qui me viennent.
Voilà. Alors, je finis sur le dossier quand même palestinien pour reparler de l'UNRWA. L'UNRWA, donc, c'est l'organisme créé par l'ONU en 1949 et qui est rentré en fonction en 1950 pour s'occuper des réfugiés palestiniens. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'entre la fin de la Deuxième Guerre mondiale, quand les premiers, la grosse vague de colons israéliens arrive sur le sol d'Israël futur, qui n'est pas encore Israël, et 1948, la proclamation d'Israël, il va arriver de grandes quantités, des centaines de milliers de juifs, principalement d'Europe. Ça, c'est tout clair. Mais en fait, ce que vont faire ces gens-là, avec des organisations qui sont des organisations terroristes en tant que telles, c'est-à-dire que ce n'est pas un État, c'est des organisations terroristes dont certaines seront présidées par de futurs premiers ministres israéliens, ils vont chasser les paysans palestiniens de leurs terres pour prendre la place. Le chiffre est connu, puisqu'en gros, dans ces années-là, donc 47-48, les groupes terroristes israéliens auront mis à la porte de chez eux en gros 800 000 Palestiniens.
Haganah.
Voilà. Là, c'est la fameuse Nakba.
Ouais.
Que faire de ces gens-là? Alors l'ONU est embarrassée, parce que on a dit à Israël qu'il pouvait faire son État, il l'a fait, et du coup ils mettent à la porte des Palestiniens. Qu'est-ce qu'on en fait? Alors on leur donne un statut de réfugiés, et on crée une structure qui s'appelle donc l'UNWRA, l'UNRWA en abrégé, qui dit « Occupez-vous d'eux, tous ceux qui sont partis de Palestine, mais qui sont Palestiniens, qu'on a mis à la porte, ben, il ne faut pas qu'ils meurent de faim ». Et donc l'UNRWA intervient dans trois pays, qui sont les trois pays principaux d'accueil des réfugiés palestiniens, qui sont le Liban, la Jordanie
et la Syrie.
Voilà. Et donc là, il se crée à partir de 1950 des camps, qui sont la forme de camps, c'est-à-dire des tentes, hein, tout simplement dans la campagne, avec donc du personnel de cette organisation de l'ONU, qui sont là pour l'encadrer, l'alimenter, lui donner un minimum d'éducation, créer ou gérer des dispensaires, etc., pour qu'ils survivent. Alors ce qui paraissait en 1950 une mesure immédiate, on va voir comment ça se règle, si l'État palestinien se crée, ils pourront revenir chez eux et tout, il se trouve que quand on est maintenant, donc 80 ans plus tard, ces réfugiés-là, enfin c'est pas les mêmes d'ailleurs, parce que ceux qui sont partis en 48, la plupart sont morts, mais on a dans ces camps de réfugiés noirs des gens qui sont à la troisième ou quatrième génération de réfugiés dans des camps, qui n'ont vécu que là. Ils sont réfugiés, ils ne prennent pas la nationalité du pays dans lequel se trouve le camp, puisqu'à ce moment-là, ils ne seraient plus réfugiés. Ils deviendraient Libanais, Syriens et tout. Donc pour qui gardent leur camp?
Moi, j'ai vu un camp vraiment en Syrie, puisque j'ai visité. Je me demande comment on peut vivre dans ces camps. C'est des tôles, c'est des...
Alors il y en a qui sont plus ou moins, voilà, plus ou moins bâtis, mais voilà.
Il y a que peut-être en Jordanie.
Voilà.
Parce qu'ils sont devenus au Liban.
Moi j'ai visité ceux du Liban, il y en a qui sont un peu construits, d'autres qui sont encore à l'état sauvage.
Mais des petites rues.
Oui, mais voilà.
Il y
a des camps qui peuvent... Il y a un des camps au Liban où il y a 80 000 habitants. C'est pas... qui sont là, avec les femmes.
Et ça a vocation du coup à...
Alors, ça aurait dû disparaître. Enfin, l'idée, c'était de dire, tant qu'ils n'ont pas de pays, on les garde là.
On les assiste, voilà. Donc, pour ne pas crever.
Ouais. Alors, la position israélienne, elle est claire. À un moment donné, ils en auront marre, ils partiront. Et donc, ils seront plus réfugiés. Ils vont partir, ils vont aller au Canada, ils vont aller où ils veulent, ils vont aller en Amérique latine.
Il y en a
qui l'ont fait, bien sûr. Ils en pouvaient plus, ils sont partis. Et donc, il y a ceux qui restent, qui sont là, toujours dans des camps. Et quand on a, au début de l'opération, là, après le 7 octobre, entendu parler d'un camp qui est dans le nord de la bande de Gaza, les gens disent, qu'est-ce que c'est que les camps? Eh bien, c'est des gens qui sont venus d'un autre endroit et qui sont venus sur Gaza.
Oui.
Alors, ce qui se passe, c'est que le droit, donc, c'est un organisme de l'ONU qui fait ça, qui les maintient en vie, pas plus.
Il y a 500 000 en Syrie, il y a autant au Liban, et plus de 700 000 en Jordanie. Voilà. Puis le reste... En Palestine, si on peut appeler ça la Palestine.
Bon. Alors, quelle est la suite? Alors, cet organisme, il est financé par des dons des États membres de l'ONU. C'est-à-dire, ce n'est pas le budget de l'ONU qui paye, c'est des dons donnés par des États membres. Ceux qui veulent bien.
Ouais.
Ceux qui veulent bien. Alors, c'est un budget qui est de l'ordre annuellement de 800 millions de dollars, presque 900 millions de dollars, qui permet de financer 30 000 salariés de cet organisme qui sont là pour justement faire fonctionner
Des policiers qui servent.
Des policiers, mais il y a aussi des instituteurs, il y a aussi le petit personnel qui est là. Et il se trouve que à la suite de l'opération, donc de la guerre commencée le 7 octobre, un certain nombre d'États qui donnaient de l'argent à l'ONU dit « Ah, c'est pas bien du tout ce que font les Palestiniens, on arrête. » On arrête, alors ils ont arrêté. Le budget est passé de 880 millions de dollars à 400 millions de dollars. C'est-à-dire que c'est la moitié. C'est la moitié. Et à ce niveau-là de manque de finances, le directeur général de l'UNRWA, donc qui est en fait un ancien diplomate français qui a été embauché par l'ONU, qui s'appelle M. Alessandrini, dit « Mais moi, à la fin du mois, donc dans deux jours, je ne peux plus faire face à mes dépenses. C'est-à-dire, je ne pourrai plus rien organiser. Alors, pas à Gaza, parce que là, c'est encore plus difficile, mais ailleurs, il n'aura plus de quoi donner à manger, donner à soigner, donner à éduquer la population des camps de réfugiés.
Il ne faut pas oublier que Gaza a été détruite actuellement à plus de 50-60%.
Exactement. Donc voilà pour ce qu'il en est de l'UNRWA, donc qui est au bord de la faillite quasiment. Et il faut savoir donc qui était le principal donateur en argent. Alors c'est intéressant du point de vue politique. À une période, c'était surtout les pays arabes voisins qui donnaient de l'argent.
Les pétrodollars.
Voilà, les Saoudiens, les Émiratis et tout. Ouais. Et maintenant, le premier donateur était les États-Unis. Bon, donc ils ont arrêté, c'est terminé. Hein, donc ils envoient des armes d'un côté et puis ils affament de l'autre, là, tout y est. Le deuxième donateur est l'Union européenne, elle a aussi arrêté. La France a aussi arrêté.
L'Angleterre.
Voilà. L'Allemagne donnait beaucoup, elle a beaucoup aussi, arrêté. Ouais. Tout. Voilà. Donc on est au point où effectivement ces millions de réfugiés, et les salariés de l'UNRWA, qui ont d'ailleurs beaucoup souffert de la guerre à Gaza, puisqu'il y en a plusieurs centaines qui sont morts dans les combats.
Oui. Et puis ils sont accusés, soi-disant.
Voilà, alors, en fait, il y a eu du nouveau, puisque. Le droit a été accusé parce qu'il y aurait eu dans les équipes palestiniennes qui ont attaqué à l'extérieur de Gaza la fameuse journée du 7 octobre, il y aurait eu, ça c'est une accusation qui a été portée très très haut et fort
dans
les médias occidentaux, il y aurait eu une douzaine de membres, de salariés de l'UNRWA qui auraient participé aux actions du Hamas. Alors, ce qu'a fait le directeur, M. Lazzarini, il a tout de suite suspendu quand on lui a donné la liste des 12 noms. Puis il a dit, je fais une enquête. Puis en fait, l'enquête, elle vient d'aboutir. Et donc hier, il a dit, ben, il y en a un qui a effectivement participé aux actions du Hamas.
C'est un Palestinien, non?
Oui. Il y en a un.
C'est normal.
Alors, un sur 30 000, bon, on ne juge pas une institution sur une personne.
Non,
Donc, ça a été fait, et ça a été le motif de l'arrêt des financements par les grands États, par les États-Unis, par l'Union européenne, etc. Donc, il y a potentiellement plusieurs centaines...
Même la mairie de Marseille...
Même la mairie de Marseille donnait de l'argent,
à l'UNRWA. Ils l'ont suspendu, puis
exactement.
Après, bon...
Et donc on en est là, on a des centaines de milliers de réfugiés qui risquent de ne pas être nourris la semaine prochaine. Donc on a une situation extrêmement explosive, mais avec en même temps, je reviens là-dessus quand même, des facteurs d'évolution politique à long terme, côté israélien comme côté palestinien, qui donnent à penser que l'idée d'un État palestinien qui a été rejetée systématiquement par Israël, systématiquement depuis 1948, a refait... Sur la base du sang versé, c'est triste à dire, mais c'est hélas assez souvent dans l'histoire comme ça, sur la base du sang versé à Gaza, cette idée de la dépendance palestinienne et de la souveraineté palestinienne a ressurgi. Et puis elle est portée, et c'est là que c'est un contexte international nouveau, elle est portée par ce qu'on appelle aujourd'hui, c'est un peu simplificateur, mais le Sud profond, c'est-à-dire de toute une série de pays qui, en 1948, étaient encore des colonies occidentales. Où venait juste de sortir la colonisation. Or, c'est ça, le grand changement du monde, outre la démographie, parce qu'on n'était pas 8 milliards en 1948, on était à peine 2. Bon, mais outre ce changement-là, la plupart des pays de la planète aujourd'hui, en particulier tous les pays d'Asie et tous les pays d'Afrique, et de l'Amérique latine en partie aussi, sont des pays issus de la colonisation depuis la Deuxième Guerre mondiale. Et tous ces pays-là ont nécessairement une autre vision du monde que notre vision à nous, puissance ancienne, européenne, etc., et puissance colonisatrice par ailleurs. Donc c'est là que se passe le changement. Il se fait dans la douleur, j'allais dire hélas, palestinienne, dont on est témoin tous les jours à la télévision, mais il est en cours. Il est en cours et on ne peut que souhaiter qu'il avance le plus vite possible et dans le moindre douleur possible.
Habib, tu peux parler un peu de l'Ukraine, là, parce que ça bouge, là.
Alors, parler de l'Ukraine, oui, quelques mots,
Quelques mots, oui.
Quelques mots. Alors, la situation, elle a une situation militaire. Alors, situation militaire qui est commentée par M. Zelensky, qui dit « Oh, il n'y a eu que 70 000 morts dans l'armée ukrainienne. Les chiffres qui circulent côté russe sont de l'ordre de 350 000. » Bon, une paille. Les États-Unis essayent de trouver un chiffre au milieu, etc. On sait qu'il y a énormément de pertes, dans la mesure où, effectivement, c'est l'OTAN qui a coordonné tout ça. Il s'agissait de donner assaut aux provinces donc de l'Est de l'Ukraine et de les prendre totalement et d'éliminer leur population. Bon, cet assaut-là a coûté très très cher, puisque de toute façon, une troupe qui donne l'assaut en terrain découvert par rapport à des gens qui se défendent et qui sont dans des fortifications, souffre énormément de ça. Et donc, de toute façon, comme il n'y avait pas de quantité d'hommes... il faut savoir qu'on a embauché un peu partout, qu'en Ukraine, on peut être mis sous les drapeaux jusqu'à l'âge de 50 ans, les femmes y sont maintenant, etc. Et puis, plus un certain nombre de volontaires étrangers, et l'encadrement otanien du tout, fait qu'effectivement, ils ont pu s'exposer à des pertes considérables. Ça a l'air de devenir difficile. Et maintenant, il est clair que depuis les derniers insuccès ukrainiens, c'est l'armée russe qui commence à avancer, à reprendre des positions. Voilà.
Même ce matin...
Ils prennent des villages. Donc le front bouge en direction de l'ouest. Ouais. Et ça, c'est la grosse évolution. C'est pour ça que Macron, en pleine panique, a fait cette réunion hier. Zelensky aussi. Mais je pense que, y compris aux États-Unis, on est conscient que ça ne peut plus durer comme ça. Et on est surtout conscient que si M. Biden continue à faire cette politique pro-ukrainienne, il va beaucoup souffrir au moment des élections présidentielles. Et ça, pour un citoyen des États-Unis, et surtout
aussi bien pour Gaza.
Oui. Un dirigeant démocrate, c'est très, très embêtant d'avoir un poids, un fardeau comme ça, et cette épine dans le pied qui est très, très lourde à porter. Donc on va avoir une évolution aussi de la position des États-Unis par rapport à ce conflit-là. Et puis la capacité militaire de la Russie a été tout à fait inattendue. C'est-à-dire qu'il était acquis qu'ils ne tiendraient pas quelques semaines, qu'ils n'auraient pas assez de munitions. Or c'est en gros c'est l'inverse qui se passe. C'est les munitions qui manquent de l'autre côté. C'est pour ça que Macron dit « Non, on n'ira peut-être pas, mais on va encore envoyer des armes et tout. » Les armes arrivent plus ou moins. Il y en a une partie qui part dans la nature sous forme de contrebande pour la Libye, pour le Sahel, etc.
Donc, il y a des armes qui ont été envoyées à l'Ukraine, puis on les retrouve en Afrique.
Oui, en Afrique, en Libye, il y en a dans le Sahel et tout.
Dans le Sahel, tout ça.
Parce qu'il faut savoir que ce pays dirigé par les équipes à Zelensky, avec les gens, les néo-nazis qu'il a dans ses bureaux, est un pays totalement corrompu, probablement un des plus corrompus du monde. Et donc, effectivement...
C'est des anciens nazis,
qu'ils appellent les néo-nazis, c'est les néo-nazis. Ouais. Bon, mais ça, on n'a pas voulu le voir. Et ce qui explique ce qui est assez étonnant, plutôt, qui fait que les sympathies du régime allemand pour le régime ukrainien sont assez étonnantes, puisqu'au fond, ils font comme s'il ne s'était rien passé entre 40 et 45. Un jour, ça va probablement se payer. Sidi me regarde, effectivement, ouais. Tu avais raison de me regarder. On va terminer là, on va remercier notre invité, on va saluer l'autre invité qui est là-bas, remercier Sidi, et puis on se retrouve donc mardi prochain pour continuer nos chroniques internationales. Merci beaucoup, bonne semaine.
Merci Sidi.
Vol noir des corbeaux sur nos plaines. Amis, entends-tu le chant lourd du pays qu'on enchaîne? Ohé, partisans, ouvriers et paysans, à vos armes! Ce soir, l'ennemi connaîtra le prix du sang et des larmes. De la mine, descendez des collines.